Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce RTL Midi, nouvelle formule. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Mais d'abord donc l'information et jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'énergie chère, très chère énergie au cœur de la rentrée politique avec ce conseil de défense inédit à l'Elysée. Et alors que les fleurons industriels tricolores commencent à trinquer, chômage partiel déjà pour le géant verrier Arc, le responsable de la communication du groupe sera avec nous à midi 10. La résistance s'organise au Val d'Ajol où l'on a appris la fermeture du collège il y a 10 jours seulement. Et puis l'Argentine sous le choc après la tentative d'assassinat de la vice-présidente.
RTL toujours plus proche de vous. Deux nouveaux rendez-vous que vous avez découverts cette semaine. D'abord dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, direction les Alpes, tartiflettes, raclette, aligots, les plats qui réchauffent votre hiver sont en danger. Non mais préparez-vous Pascal.
Bah oui, d'autant qu'on n'aura pas d'électricité, donc autant manger de la tartiflette.
Pas facile hein, fort sans électricité. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Quelle activité pour vos enfants le mercredi après-midi, sport, culture et à quel prix, on vous dit tout. À midi 40, on accueillera un marabout en pleine affaire Pogba. On s'est posé la question, quelle place prennent-ils vraiment dans le monde du ballon rond? Juste avant 13h LVT Midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée, Steven Bellery viendra nous présenter les nouveautés musicales du jour. La question du jour, elle c'est sur RTL.fr, elle concerne la crise de l'énergie. Êtes-vous prêt à baisser votre chauffage d'un degré cet hiver?
Bah, on va poser la question effectivement aux gens autour de ce studio tout à l'heure. On leur demandera autant de sujets évidemment que dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs ont la parole.
Mais avant ça, la météo, on parle degrés?
Bien sûr, bien sûr.
Bonjour Anthony Casmarek.
Bonjour Céline, bonjour Pascal. La tendance c'est simple, c'est un temps lourd, instable, orageux sur tout le pays et ces orages seront localement violents dans le Var, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.
C'est mieux quand c'est Peggy qui vient.
On vous retrouve quand même à la fin du journal. Merci Anthony.
RTL Midi.
C'est le fils, un adolescent de 16 ans, qui a appelé la police mercredi soir à Morangis, dans l'Essonne, pour prévenir d'une dispute violente entre sa mère et son beau-père. Bonjour Léonard Cassette.
Bonjour.
Vous êtes devant le domicile de cette famille où à leur arrivée, mercredi soir, les policiers ont découvert le beau-père mortellement blessé.
Oui, au téléphone, le jeune homme de 16 ans explique qu'une rixe a lieu chez lui entre sa mère, 38 ans, et son conjoint, âgé lui de 41 ans. Il indique que ce dernier poursuit sa mère autour d'une table, un couteau à la main. La police se rend alors sur place, un petit pavillon récent où traînent devant la porte du garage quelques pots de peinture et dont les volets sont aujourd'hui fermés. À l'arrivée des policiers, le jeune homme explique qu'entre-temps, sa mère a réussi à récupérer le couteau qu'elle a porté 3 coups au thorax de son conjoint. Les secours présents sur place ne parviennent pas à réanimer l'homme, inconscient. Il constate alors le décès. Selon nos informations, cette femme avait déposé plainte contre son conjoint pour violence dans un commissariat du Val-de-Marne 2 jours avant cette rixe. Mercredi soir, elle a été placée avec son fils en garde à vue. Cela doit permettre de confronter leurs 2 versions des faits. La question sera notamment de savoir si la mère a agi en état de légitime défense. On ne sait d'ailleurs pas à l'heure qu'il est si ses gardes à vue sont toujours en cours.
Léonard Cassette à Morangis dans l'Essonne pour RTL. Un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de l'imam Hassan Iqiyoussen, le religieux marocain visé par une procédure d'expulsion, est en fuite. Il pourrait avoir pris la direction de la Belgique, selon le ministère de l'Intérieur.
Et cette information est importante parce qu'on se demande si, on se demandait si ce mandat d'arrêt européen serait délivré. En pleine crise de l'énergie, un message plutôt rassurant ce matin, celui de la patronne d'Engie.
Oui, alors qu'Emmanuel Macron réunit actuellement un conseil de défense inédit sur le sujet pour faire le point sur les approvisionnements en gaz et en électricité afin d'éviter les pénuries. Catherine McGregor, la directrice générale du premier fournisseur de gaz en France, était sur RTL ce matin et tout en répétant qu'il fallait économiser l'énergie dans un contexte géopolitique toujours très tendu, elle s'est voulue rassurante sur l'hiver à venir.
Aujourd'hui, on est plutôt relativement serein sur la situation du gaz en France.
Donc on ne va pas manquer de gaz cet hiver.
A priori, on ne manquera pas de gaz, sauf, si on a besoin de beaucoup plus de gaz parce que soit le climat est extrêmement froid et que notre production d'électricité est affaiblie, auquel cas on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité et on pourrait avoir un scénario plus tendu.
Catherine MacGregor avec Amandine Bégaud ce matin sur RTL. Alors, assez de gaz pour passer l'hiver, d'accord, mais à quel prix pour les entreprises? Certaines des fleurons industriels français sont déjà frappées de plein fouet et contraintes à des décisions radicales, Martial Youp.
Oui, avec comme principale préoccupation en ce moment à Bercy, le secteur des industriels du verre. La cristallerie d'Arc, on va en parler, mais sauvée en grande partie par l'État il y a quelques mois. Duralex également, ces entreprises sont obligées d'avoir recours au chômage partiel déjà. Un autre géant inquiète beaucoup, c'est Saint-Gobain. La facture gaz est colossale et si jamais le groupe Fleuron Mondial devait arrêter son four parce que la production coûterait trop cher, eh bien, on ne pourrait plus le rallumer parce que le sable qui sert à faire le verre encrasserait la machine. La scierie Ascométal va réduire aussi sa production et dans l'agroalimentaire, le président de l'ANIA, les industriels de l'agroalimentaire, me confiait cette semaine qu'il connaissait un charcutier industriel dont la facture énergie est passée de 2 millions l'an dernier à 6 millions cette année et qu'elle sera de 14 millions l'an prochain. Évidemment, toute sa marge part dans le gaz et l'électricité désormais. Mais l'État a donc débloqué une enveloppe de 3 milliards pour aider les entreprises à régler leurs factures d'énergie. Dans les prochains jours, les règles pour toucher ces aides vont être modifiées parce qu'aujourd'hui, peu de sociétés étaient éligibles. Et si toutes ces entreprises industrielles sont obligées d'avoir recours au chômage partiel, bah, il faudra que l'État le rémunère. Et il y a un risque social à terme, bien sûr, de destruction d'emplois dans cette industrie.
Martial Youp, chef du service économique et social d'RTL. Martial, vous parliez de la situation du groupe Arc. Guillaume Rabel-Suquet, son directeur des RH et de la communication, sera notre invité après ce journal.
On prend maintenant la direction du Val d'Ajol dans les Vosges où à l'heure de la rentrée on organise non pas l'école buissonnière mais le collège buissonnier.
Oui, on vous en parlait lundi dans la commune. Les élèves et leurs parents ont appris il y a 10 jours seulement que leur collège ne rouvrirait pas pour des questions de sécurité, ce qui contraint certaines familles à faire de gros détours. 3 bus étaient affrétés ce matin par le département pour les transporter dans un établissement de l'autre côté de la montagne. Mais sur les 122 élèves attendus, seuls 16 sont montés à bord, Dimitri Ramelot.
Oui, et parmi les parents d'élèves, David, qui était bien présent ce matin peu avant 8h devant le collège avec son fils, qu'il n'a donc pas laissé monter dans le car.
Dans quoi? C'est quoi ça? C'est la chose qui va amener dangereusement mes enfants à Plombières? Non, hors de question. Donc le geste est vraiment symbolique. On fait une école dans la cour devant notre collège.
Et Christophe aide à l'installation de la classe sauvage.
Table, chaise, tableau, professeur, dictée, problème. On part sur des cours assez classiques, mais qui se passent forcément à l'extérieur du collège où on ne peut plus accéder maintenant.
Ce matin, j'ai repris le chemin du collège.
Il y a quelques mots que je comprends pas, mais à part ça, ça va.
Ça raconte quoi?
Bah, le collège qui ferme et que la population angelaise bah, nous aide.
C'est bizarre, mais en même temps, c'est bien parce que comme ça, on montre que nous, on ne veut pas aller au collège de Plombières.
Et en attendant la poursuite des discussions avec le département, une majorité de commerçants a décidé de baisser le rideau par crainte de voir leur activité s'effondrer.
Un reportage signé Dimitri Ramelot dans les Vosges pour RTL.
L'Argentine se réveille sous le choc ce matin après la tentative d'assassinat de la vice-présidente Cristina Kirchner.
Et une vidéo tourne en boucle sur les chaîne de télévision, celle de cette scène surréaliste, Julien Fautra, où l'on voit un homme tenter de tirer à bout portant sur la vice-présidente argentine.
Oui, l'arme à quelques centimètres du visage de Cristina Kirchner. On voit ce pistolet apparaître dans le champ de la caméra qui suit l'ancienne présidente. L'homme appuie sur la détente, mais aucun coup ne part. En une fraction de seconde, elle se baisse et la foule se retourne sur un homme dont on ne distingue pas le visage, mais qui semble être maîtrisé. L'arme qui contenait 5 balles n'a pas fait feu, bien qu'ayant été déclenchée, a déclaré le président argentin Alberto Fernandez. Dans une allocution à la télévision argentine, le chef de l'État qui évoque aussi le fait le plus grave survenu depuis que le pays a retrouvé la démocratie, c'était il y a près de 40 ans. Ce vendredi est décrété jour férié. Une manifestation dans quelques heures est prévue dans la capitale, Buenos Aires, en soutien à la vice-présidente.
Julien Fautra du service étranger de RTL, merci. Les abonnés Canal+ n'ont plus accès aux chaînes TF1, TMC ou encore LCI. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord au moment de renégocier le contrat de distribution. Le groupe Canal+ a donc décidé de suspendre la diffusion des chaînes du groupe TF1. La météo, comme promis, on vous retrouve, Anthony Kazmarek. Orageux hein, cet après-midi.
Exactement, et sur presque tout le pays, avec deux exceptions. La côte atlantique, qui retrouvera un temps sec du Morbihan au Pays Basque, et puis l'Alsace et la Lorraine, qui ne seront concernées par les orages qu'en toute fin de soirée. Mais donc partout ailleurs, un risque d'averse, localement accompagné d'orages, de très rares éclaircies. Et attention, ces orages, en se décalant vers l'est, vont se renforcer jusqu'à la Méditerranée d'ailleurs. Et le Var, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange. orange pour ce risque d'orage violent jusqu'à ce soir. Prudence, on attend de forts cumuls de pluie. Évidemment, avec ces orages, les températures sont en baisse, mais elles sont encore assez élevées pour un début septembre. On partira de 21 degrés à Cherbourg pour aller jusqu'à 30 degrés à Marseille et Perpignan. Il fera encore 28 à Lyon et à Grenoble, 27 à Lille, à Strasbourg et Toulouse, 25 à Dijon et 24 à Paris et Nantes.
Merci Anthony.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison RTL Midi, un jour chez vous, un jour en France. Et si vous êtes auditeur d'RTL depuis de nombreuses années, vous savez combien il est important pour nous de faire remonter ces informations du terrain et des régions.
Et aujourd'hui, on part dans les Alpes, Pascal, plus précisément en Haute-Savoie, puisque la tartiflette est en danger. Bonjour Serge Pueyo.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
C'est une autre conséquence de la sécheresse, hein, la production de reblochons est en forte baisse.
Oui, vous l'entendez avec ces bruits de cloche. Nous sommes sur l'alpage du plateau de Beauregard, au-dessus de la station de la Clusaz. Guillaume Loyer est éleveur. Il a 75 vaches laitières et produit les fameux reblochons. Mais cette année, il est confronté à une importante baisse de production de lait.
Une baisse de production qui s'explique du fait qu'on a eu, très peu de précipitations depuis le début d'année. On a eu une faible pousse d'herbe.
Donc moins d'herbe, moins de lait.
Moins d'herbe, moins de lait. Là, on a à peu près en moyenne à 4 litres par jour par vache. Ça fait presque 20%. L'équivalent d'un reblochon par jour par vache, c'est pas négligeable et ça va être compliqué pour beaucoup d'exploitations laitières dans le secteur.
Et la baisse de production, Serge, elle se fait déjà sentir. Hein.
C'est une expression qui convient.
Oui, c'est exactement ça. Guillaume Loyer se désole devant le nombre de fromages qui manquent à l'appel.
On est dans la salle de fabrication où on transforme notre lait. Donc là, on peut voir les reblochons qu'on a fabriqués aujourd'hui. Donc on voit que la table est beaucoup moins remplie qu'habituellement.
Il y a moins de fromage.
Il y a beaucoup moins de fromage, moins de lait à la traite, donc moins de fromage en salle de fabrication. Là, il y a à peu près 125 reblochons, donc ça en manque... Ça en manque une bonne trentaine par rapport à d'habitude. Et là, en ce moment, on a du mal à fournir tout le monde. C'est compliqué.
Et certains consommateurs commencent à s'inquiéter, Serge.
Oui, je suis allé à la coopérative de Thônes, la capitale du reblochon. Et de peur de manquer de fromage, beaucoup se pressent pour en acheter. C'est le cas de Sarah.
Vous faites quelques réserves, là.
Tout à fait. Exactement. Pour faire une bonne croziflette, il n'y a rien de tel.
Donc vous assurez le coup. Hein.
C'est ça. Et puis là, il y a du fromage de qualité, donc on en profite.
Oui. Le reblochon, il faut toujours en acheter.
Tout à fait. Reblochon, abondance, c'est la base.
Sans ça, vous ne vous sentirez pas bien.
Non, exactement.
Alors, reblochon, raclette Beaufort, abondance, on risque la pénurie dans les prochains mois, Serge ?
Alors écoutez, cela va être tendu, mais Jean-Luc Duclos, le président de l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes, assure que non.
Je pense qu'il n'y aura pas de pénurie absolue de fromage de Savoie cet hiver. Il faut tranquilliser le consommateur. Les opérateurs vont s'organiser pour peut-être vendre un peu moins au fil du temps des fromages de Savoie pour en avoir absolument pour Noël. Donc je peux vous dire qu'il y aura de la raclette de Savoie pour Noël. Il y aura du reblochon de Savoie aussi pour Noël. Et ce sera pareil pour l'ensemble des produits savoyards.
Merci. Voilà. En revanche, le prix des fromages savoyards devrait augmenter de 6 à 8%.
Voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle. Merci beaucoup Serge Pueyot.
Dans un instant, on revient sur les difficultés de la verrerie Arc dont on parlait il y a quelques instants. Et nous sommes avec le directeur de la communication de cette société. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
On nous annonce du chômage partiel, donc une baisse des revenus pour les salariés, alors qu'on attendait en cette rentrée plutôt une augmentation des salaires pour faire face justement à cette inflation galopante.
Frédéric Speck, le délégué CGT de la société Arc France, ce matin sur RTL, le géant du verre, à nouveau en difficulté, qui a décidé donc de placer une partie de ses salariés au chômage partiel, rattrapé par la crise économique, une hausse des prix de l'énergie, des commandes qui s'effondrent. 1600 salariés sont aujourd'hui concernés par ce chômage partiel. Et pour en parler avec nous, on accueille Guillaume Rabel-Suquet. Bonjour.
Bonjour Céline.
Vous êtes...
Bonjour Pascal.
Bonjour, vous êtes directeur des ressources humaines et de la communication du groupe. D'abord, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Cette décision, elle résulte de quoi ? De coûts qui augmentent ? De commandes qui s'effondrent ?
Alors en fait, on a eu une première partie de l'année qui a été très bonne. Meilleure première partie de l'année depuis 2015, avec un premier semestre profitable. Aujourd'hui, on est impacté par les prix d'énergie qui explosent et une facture de gaz qui est passée de 19 millions à 75 millions cette année. C'est plus 56 millions. Et donc, ça nous demande à prendre des mesures énergétiques, des mesures d'urgence qui visent à protéger le groupe.
C'est-à-dire que vous avez multiplié quasiment par 3, par plus 4. De 3 Oui.
Quatre.
Les coûts d'investissement en matière de gaz, c'est
en
ça.
En fait, sur notre facture d'énergie, notre facture de gaz a été multipliée par 4.
De 19 à 64, dis-donc.
De 19 à 75 millions
à 75.
D'euros. Vous avez plus 56 millions. En parallèle de cela, un autre chiffre pour bien vous montrer en fait l'ampleur de magnitude sur ces aléas externes au groupe. Notre facture en fait d'emballage, l'emballage pour mettre nos verres, c'est plus 60% de factures, c'est plus 24 millions aussi, là encore.
Donc ça, c'est les coûts qui augmentent, on le comprend bien. Ce serait viable si les recettes augmentaient aussi. Et là, ça coince, les commandes, elles ne suivent pas.
Alors en fait, on a augmenté nos prix déjà de 35% depuis le début de l'année. Mais on arrive à une situation, on est à l'asymptote. Où en fait, nos clients commencent à se poser des questions de reporter en fait, des achats. Et donc, on a vu un changement en fait, de comportement de nos clients qui s'est opéré pendant le mois de juillet-août, début août, et qui commence à reporter des commandes.
On n'achète plus de vaisselle.
On achète moins de vaisselle, on se préoccupe plus des achats du quotidien et on reporte à l'année prochaine des achats des arts de la table.
Mais quel est l'avenir pour votre société ?
L'avenir, en fait, c'est de passer en fait, cette période de crise de l'énergie le mieux possible et de se mettre en mode hibernation pendant l'hiver.
Et si ça dure ?
Et si ça dure ?
Si la guerre dure.
Et alors ça, ce n'est pas nous d'en déterminer l'issue, mais on verra comment on peut trouver des solutions. Alors on travaille sur des solutions.
Vous pouvez changer de fournisseur ?
Alors on travaille sur des solutions d'abord sur des économies d'énergie. Donc on a engagé un certain nombre de plans d'action sur ces économies d'énergie. On travaille sur des basculements de production de fours de gaz vers du fioul domestique. Et on est en train de réfléchir à aller faire des réparations sur nos fours qui étaient prévues au cours de l'année 2023, plus particulièrement pendant l'hiver, pour éviter en fait de produire le maximum pendant cet hiver. Et on arrêtera peut-être certains de nos fours, on mettra en sommeil certains de nos fours pendant l'hiver.
C'est la question que j'allais vous poser, pardon de parler d'un de vos concurrents, mais Duralex a annoncé qu'il allait fermer un de ses fours pendant 4 mois. C'est aussi quelque chose...
Alors, Duralex a fait le choix en fait, de se mettre en hibernation complète. Nous essayons en fait, de traverser cette crise avec un mix d'actions, économie d'énergie, innovation, basculement vers du fioul pour passer au mieux cette période.
C'est une casse sociale importante ?
Alors, ce n'est pas une casse sociale aujourd'hui. Je peux pas,
c'est une baisse de salaire,
C'est une baisse de salaire.
C'est une casse sociale.
C'est une baisse de salaire.
Quand vous dites à quelqu'un qui va moins gagner qu'il ne gagnait et qu'il est au chômage partiel, vous avez beau lui expliquer que ce n'est pas une casse sociale, vous n'allez pas être très efficace dans
la
démonstration.
Là où vous avez raison, c'est qu'il y a une perte de salaire. On maintient nos salaires à 84% du net. En revanche, nous maintenons l'emploi. Nous avons recruté cette année plus de 400 personnes sur le premier semestre. J'espère pouvoir en recruter dans l'avenir, continuer à recruter dans l'avenir. Ce n'est pas une casse sociale parce que, et ça c'est mon point, nous maintenons l'emploi et nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir l'emploi via des dispositifs d'activité partielle.
Merci beaucoup Guillaume Rabel-Suquet. Je rappelle que vous êtes directrice des ressources humaines et de la communication du groupe Arc. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est la rentrée, vous le savez. Et il y a cette question, comment occuper les enfants quand ils ne sont pas à l'école ? Jadis, on faisait du sport. Aujourd'hui, c'est les tablettes, la musique.
Oh, comme vous y allez, Pascal, on fait toujours du sport quand même.
J'aimerais que les enfants fassent du sport, mais je pense qu'ils en font moins qu'il y a 30 ans. RTL Midi, votre vie, précisément, on va savoir comment vivent les ados et les enfants.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, oui, parce que l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, mais que vont faire nos enfants les mercredis et samedis ?
Je vais faire du ping-pong, c'est un sport qui m'attire bien, j'aime beaucoup.
Gymnastique artistique féminine,
du cyclo-cross, du VTT, de la piste.
Voilà quelques idées alors que les forums des associations auront lieu dans de nombreuses villes ce week-end. L'occasion de vous renseigner sur les activités proposées chez vous. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Alors, ils font quoi, nos enfants ?
Eh bien, soit ils vont dans les centres de loisirs municipaux, des centres qui proposent de multiples activités, ou alors, eh bien, ils vont dans les clubs, les associations, les maisons de quartier. Et ça, là, on propose des activités plus ciblées. Le sport, des activités artistiques, des activités culturelles. Le sport, c'est l'activité extrascolaire la plus pratiquée par les enfants à 88%. Quel sport ? Eh bien, le foot, le tennis, le judo, ça c'est le trio de tête chez les moins de 15 ans. Il y a 820 000 licenciés de moins de 15 ans pour les clubs de foot, 400 000 pour le tennis, 380 000 pour le judo. Alors chez les tout-petits, les 3-4 ans, là on fait en priorité de la gym ou de la natation. On apprend à nager à cet âge-là, c'est souvent le choix des parents. Les garçons ont un taux de pratique du sport plus important que les filles, 93% contre 83%. Les filles, elles sont un peu plus nombreuses à exercer une activité artistique.
Est-ce qu'on sait combien d'enfants ont des activités extrascolaires ?
Alors là, les chiffres ont beaucoup
évolué.
Combien
sont dans des associations, des clubs ?
Oui, voilà. Alors, les chiffres ont évolué entre 2019 et 2021. Le Covid est passé par là. Alors, il y avait 60% d'enfants de maternelle et de primaire qui pratiquaient une activité en club ou dans une association en 2019. Et on est tombé à 36% en 2021. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu moins d'activités, tout simplement. Les clubs ont été bridés dans leur pratique par le Covid, par la pandémie. Donc là, il y a eu beaucoup moins d'enfants à pratiquer des activités. Les familles aussi avaient un peu peur de les envoyer dans les clubs de sport à cause du risque de contamination. Mais tout ça, évidemment, ça repart, ça va repartir. Donc je vous rappelle le chiffre. 2019, 60% des enfants de maternelle et de primaire pratiquaient une activité en club ou dans une association. Et là, c'est le moment d'aller voir ce que proposent les clubs et les associations.
Mais est-ce qu'on... Enfin, on dit parfois que certains enfants croulent sous les activités extrascolaires. C'est vraiment le cas ?
Alors, non, l'essentiel des enfants qui ont une activité extrascolaire n'en ont qu'une. 66%, une seule activité. Alors, pour 26%, ils en ont deux. Et puis, il y a 8% des enfants qui ont trois ou plus d'activités extrascolaires. Alors, c'est à peu près la même chose d'ailleurs pour la fréquence dans la semaine. Essentiellement, deux tiers des enfants ont une activité, ils y vont une fois dans la semaine. Pour un quart, ils y vont deux fois dans la semaine. Bah, il suffit d'avoir un entraînement et un match et puis on a deux fois dans la semaine. Ou alors, on fait du piano et on va faire de la natation deux. Et puis, voilà, là encore, un peu moins de 10% qui ont plus de trois fois dans la semaine une activité extra-scolaire.
Il y a un coût, il est différent forcément. Faire du foot, c'est pas la même chose que faire de l'équitation.
Exactement, et c'est un frein, le coût des activités extra-scolaires. Dans les chiffres communiqués par la CAF, qui publie un baromètre tous les ans, on constate qu'un peu plus de 20% des familles qui ne mettent pas leurs enfants dans un centre de loisirs ou dans un club disent que c'est parce que c'est trop cher, et ça monte à 30% chez les familles les plus modestes. Selon une enquête de la Confédération syndicale des familles, en 2020, le coût moyen de l'inscription à une activité extrascolaire s'élève à 134 € par an. Alors vous l'avez dit, ça dépend évidemment de l'activité qu'on fait, ça dépend aussi du club dans lequel on s'inscrit. Pour une licence de foot, ça varie d'une ligue à l'autre, d'une région à l'autre.
C'est à peu près 150 € par an pour jouer au football.
Pour les adultes, pour les enfants, c'est un peu moins. Et puis il peut y avoir un tarif dégressif pour une fratrie. On va faire payer moins cher évidemment si on a 1, 2, 3 ou 4 enfants inscrits en même temps. Et puis le prix moyen de l'équipement, c'est 55 € par an. Vous n'oubliez pas, il y a des aides aussi pour les familles les plus modestes pour payer moins cher son inscription dans un club.
Merci beaucoup Marie Guerrier.
Merci Marie pour ce rendez-vous désormais quotidien. C'était RTL Midi, votre vie. Le retour de l'info, c'est dans un instant avec le journal de 12h30.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, nouvelle formule, car désormais notre rendez-vous d'information de la mi-journée commence dès 12h. Mais pour l'heure, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, c'est la grande édition de la mi-journée. Avec vous, Céline Landreau.
Conseil de défense inédit aujourd'hui à l'Elysée pour évoquer l'approvisionnement en énergie, alors que les premiers fleurons industriels français doivent ralentir leur production confrontée à des factures qui s'envolent. Pendant ce temps, les Suisses viennent faire le plein d'essence en France. Un mandat d'arrêt européen délivré contre l'imam Hassan Iqiyoussen, qui est désormais aussi recherché à l'étranger. Et puis l'inquiétude toujours vive autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. À 12h40, importante, mais quelle place prennent les marabouts dans le foot? L'affaire Pogba révèle-t-elle une pratique répandue? On en parle avec un marabout, justement, à Presse Journal. Votre rendez-vous culture, LVT Midi, à 12h50, l'actu musicale vue et commentée par Steven Bellery, avec entre autres le dernier morceau de Kenji, sorti aujourd'hui. La question du jour sur RTL.fr, crise de l'énergie. Êtes-vous prêt à baisser votre chauffage d'un degré cet hiver, Pascal?
Ben ça, c'est une excellente question. On la posera évidemment aux auditeurs tout à l'heure. On pourra parler de la crise de l'énergie. On pourra revenir sur l'affaire Pogba, sur l'imam Hassan Iqiyoussen. Et puis après 2 ans d'absence dû au Covid, la braderie de Lille fait son grand retour. Donc nous attendons vos témoignages entre 13h et 14h30.
La météo à la fin du journal avec vous, Anthony Kaczmarek. Mais déjà un indice?
Un indice tonnerre, des orages sur quasiment tout le pays. Et attention, ils seront localement violents dans le sud-est.
Merci Anthony.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Sans le savoir, vous subventionnez le plein d'automobilistes étrangers.
Et oui, c'est l'une des conséquences des remises gouvernementales sur le prix du carburant. Moins 30 centimes le litre, vous le savez, depuis hier. Mais évidemment, sans que l'on réclame votre carte d'identité à la pompe, alors dans les régions frontalières, nos voisins ne se font pas prier pour venir profiter de ces aides gouvernementales, comme vous avez pu le constater à Annemasse, à la frontière suisse, Bertrand Frachon.
Devant cette station totale à l'entrée d'Annemasse, les voitures font la queue sur le trottoir pour accéder aux pompes. Momo patiente tranquillement au volant, il habite côté suisse et il n'a pas hésité à traverser la frontière pour son plein.
Clairement, ces temps-ci, c'est clairement intéressant. Avec le cours du change, en plus, c'est cadeau, quoi, si je puis dire.
Donc vous, vous faites le déplacement, vous passez la frontière exprès?
Exactement, je suis venu exactement pour ça. Que pour ça. Parce que aujourd'hui, juste avant de passer la frontière, j'ai vu le diesel en Suisse, il était à 2,40. Donc là, on est à 1,75 et même l'Excellium à moins de 2 euros, donc il n'y a pas photo quoi.
Pas photo pour les Suisses donc, des hauts savoyards attendent aussi leur tour, comme Sylvie qui trouve ça plutôt normal.
Eh ben tant mieux pour eux. Après, ben, que les Suisses viennent en France, les Français vont bien travailler en Suisse, donc pourquoi pas.
C'est de bonne guerre.
Tout à fait. Après tout, d'être frontalier, il y a des plus, il y a des moins, mais bon, des deux côtés. Pourquoi pas toujours du même côté?
Les aides de l'État français sur les carburants n'ont donc pas fini d'attirer nos voisins.
Bertrand Frachon à Annemasse, à la frontière suisse pour RTL.
C'est un conseil de défense inédit qui s'est réuni ce matin à l'Élysée.
Oui, puisqu'en pleine crise énergétique, le président Emmanuel Macron a réuni quelques-uns des membres du gouvernement pour évoquer les approvisionnements en gaz et en électricité. Thomas Desprez, après avoir répété aux Français qu'il allait falloir faire des efforts, l'exécutif met en scène sa mobilisation.
Oui, exactement. Comme à la grande époque des conseils de défense sanitaire, le gouvernement a choisi la stratégie de la dramatisation. Montrer aux Français que l'heure est grave et que la situation va nécessiter des sacrifices pour tout le monde. Cela fait donc bientôt 2h30 que les ministres sont réunis autour d'Emmanuel Macron dans le huis clos de l'Élysée. Autour de la table, Elisabeth Borne, bien sûr, mais aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la chef de la diplomatie Catherine Colonna, ainsi que la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Au menu des graphiques, des projections, tous les scénarios sont mis sur la table, explique un conseiller, du plus optimiste au plus sombre. Objectif, éviter à tout prix un blackout qui priverait les Français d'électricité en plein cœur de l'hiver. Les participants qui ont également évoqué la solidarité européenne en matière d'énergie. On attend désormais une conférence de presse du gouvernement qui pourrait avoir lieu en début d'après-midi tout à l'heure.
Thomas Desprez à l'Élysée pour RTL.
Et pendant que le gouvernement se réunit, les fleurons industriels français, eux, trinquent déjà.
Très fortement touchés, oui, par la hausse des prix de l'énergie, la célèbre verrerie Duralex va mettre son four en veille pendant au moins 4 mois, dès novembre, et placer l'ensemble de ses salariés en chômage partiel. Chômage partiel aussi chez son concurrent, le groupe Arc. 1600 salariés sont touchés, une personne sur 3. Le directeur de la communication du groupe, qui était notre invité il y a quelques minutes, parle d'une hibernation le temps que la crise passe. Mais c'est encore un coup de massue pour les salariés qui savent que c'est une période difficile qui s'ouvre pour eux, Franck Hanson, et qui est loin d'être terminée.
Oui, à l'entrée de la cristallerie, ce midi, les ouvriers ont l'impression d'être dans le brouillard, plutôt fataliste. Pour l'instant, seuls les personnels administratifs sont pénalisés, mais d'autres mesures drastiques devraient vite arriver pour Frédéric Speck, le délégué CGT.
Un nouveau coup dur avec, cette fois-ci, une crainte particulière, c'est de voir des productions et même des fours se retrouver complètement à l'arrêt. On se demande vraiment où ça va s'arrêter. Ça fait quand même, nous, presque 20 ans qu'on est dans cette galère. Le coût du gaz 2022 par rapport à 2021, 2021, c'est presque 60 millions d'euros en plus. À ce tarif-là, on ne peut plus y faire face.
Le groupe Verrier, qui voit aussi ses commandes chuter, a déjà bénéficié de plusieurs plans de sauvetage. Dans le secteur audomarois, les perspectives ne sont guère réjouissantes, selon Patrice Bollangier, le secrétaire du CE.
Si on produit, ça nous coûte extrêmement cher en termes énergétiques. Et si c'est pour stocker, ça n'a aucun intérêt. Les 500 intérimaires qu'on a encore aujourd'hui, on ne va plus les garder. Alors le Covid, on a réussi à passer à travers. Alors on a eu des aides de l'État, de la région, etc. On fait quoi maintenant? Je ne sais pas comment on va s'en sortir.
Une réunion extraordinaire est prévue la semaine prochaine sur le site d'Arc pour tenter de garder le cap.
Franck Anson, Arc, dans le Pas-de-Calais pour RTL.
Toujours en fuite désormais l'imam Hassan Iqiyoussen est recherché dans toute l'Europe.
Oui, le juge d'instruction de Valenciennes a délivré un mandat d'arrêt européen. Le ministère de l'Intérieur soupçonne le religieux marocain visé par une procédure d'expulsion d'avoir fui en Belgique. Ce mandat, Anne Le Hennaf, bonjour.
Bonjour.
Ça veut donc dire, ce mandat, que les autorités françaises ont l'intention de l'arrêter ou le faire arrêter, et cela où qu'il soit.
Oui, de le récupérer, puisque ce mandat veut dire que la France demande à un ou à plusieurs autres pays membres de l'Union européenne d'arrêter une personne recherchée et de la lui remettre. Donc on arrive à une situation assez ubuesque où la France fait rechercher Hassan Iqiyoussen, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se félicitait il y a deux jours qu'il avait quitté le pays et expliquait avoir donné des informations à la Belgique pour qu'il ne puisse pas revenir en France. Mais la justice considère que l'imam est désormais un délinquant, puisqu'il s'est soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement, ce sont les termes précis, en disparaissant. Et c'est une infraction pénale qui est passible de 3 ans de prison. Donc s'il est arrêté et remis à la France, il ne devrait en toute logique pas être placé en centre de rétention en vue de son expulsion vers le Maroc, qui sera de toute façon très compliqué puisque le Maroc lui a retiré les documents nécessaires. Mais il devrait être sans doute jugé pour un délit qui relève maintenant de la justice pénale.
C'est un peu kafkaïen. Merci beaucoup Anne Le Hennaf pour RTL. Un homme tué par sa femme mercredi soir à Morangy dans l'Essonne sur fond de violence conjugale. Dans un premier temps, c'est le fils, un adolescent de 16 ans qui a appelé la police pour avertir que son beau-père courait après sa mère avec un couteau. D'après l'adolescent, la femme aurait ensuite réussi à retourner l'arme contre la victime que les secours n'ont pas réussi à réanimer.
C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle récente. 10 ans après la tuerie de Chevaline, un témoignage rare.
Oui, celui d'un des premiers témoins de la scène de crime. Le 5 septembre 2012, une famille d'origine irakienne était assassinée dans sa voiture sur une route forestière de Haute-Savoie. Un cycliste était lui aussi retrouvé mort. Philippe est l'un des premiers à être arrivé sur place et il n'a évidemment rien oublié.
Je suis arrivé sur une scène avec des morts, ça paraissait irréel, c'est quelque chose qu'on voit qu'à la télé. J'ai vu en arrivant sur le parking la voiture, surtout le conducteur, avec des impacts de balles. Et puis j'ai vu derrière qu'il y avait 2 autres personnes, ainsi qu'un cycliste qui était étendu derrière le véhicule. Et une petite fille sur le ventre, étendue également. Ça fait 10 ans que j'y pense. Ça marque ma vie.
Vous avez une pensée pour les 2 petites Anglaises qui ont survécu et qui ont perdu leurs parents ce jour-là?
Oui, y en a une que j'ai vue, que j'ai touchée, donc Zainab, la grande, parce que moi je l'ai laissée là-haut en étant persuadé qu'elle était morte. Nos vies sont effectivement croisées. Je pense qu'elles attendent des réponses, et compte tenu que je reste persuadé que ça va être compliqué de résoudre cette affaire, donc j'espère qu'elles seront capables de mener une vie normale avec ça en elles, sans avoir la réponse.
Document RTL signé Serge Peuillot.
Il faudra plusieurs jours aux équipes de l'Agence internationale pour l'énergie atomique pour se rendre compte de l'état de la centrale de Zaporijjia.
Le site ukrainien, aujourd'hui occupé par les Russes et visé à plusieurs reprises par des tirs et bombardements, inquiète la communauté internationale qui redoute un incident nucléaire. Une délégation de l'AIEA est arrivée sur place hier et elle a déjà pu constater, Émilie Beaujard, que l'intégrité physique de la centrale avait été violée.
Oui, par des tirs. Il faut maintenant déterminer s'il s'agit d'erreurs ou de tirs délibérés. Voilà ce qu'a expliqué le chef de la délégation, tout en se disant inquiet quant à la sécurité de la centrale. Hier, pendant un peu moins de 3 heures, lui et ses 13 experts ont pu inspecter une partie de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ils ont pu voir les générateurs, les systèmes d'urgence et certaines salles de contrôle. Ils sont aussi allés voir ces fameux camions de l'armée russe égarés au pied d'une des turbines nucléaire. Leur rapport devrait sortir dans quelques jours. En attendant, 5 experts vont encore rester sur place jusqu'à dimanche pour continuer leur inspection. L'AIEA, qui pour l'instant joue la carte du dialogue avec Moscou, avec pour ambition de pouvoir laisser une équipe en permanence pour surveiller la centrale en temps réel.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL. L'Argentine sous le choc après la tentative d'assassinat qui a visé la vice-présidente Cristina Kirchner. Un homme a pointé sur elle une arme à feu chargée, arme qui se serait enrayée selon le président argentin. Tout cela alors que Cristina Kirchner saluait devant chez elle ses partisans, des militants qui la défendent, alors qu'elle est engluée dans une affaire de corruption. En France, bras de fer entre deux géants du PAF. Le groupe Canal+ suspend la distribution des chaînes du groupe TF1. Les abonnés Canal n'ont donc plus accès aux chaînes TF1, TMC ou encore LCI. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord au moment de renégocier le contrat de distribution. La météo, à présent, on vous retrouve Anthony Kaczmarek. C'est pas très apaisé, hein ?
Non, pas du tout. C'est un temps lourd, orageux, instable sur quasiment tout le pays. Et attention, ces orages seront localement violents dans le Var, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Dans le sud-est, donc, ces quatre départements sont en vigilance orange. Partout ailleurs, donc, ces averses orageuses qui ne seront pas forcément très organisées. Et puis, le soleil va déjà revenir sur la côte atlantique et il se poursuivra toute l'après-midi sur la Lorraine et sur l'Alsace. Les températures sont évidemment en baisse, 21 à 24 près de la Manche, 24 à 28 partout ailleurs et jusqu'à 30 encore près de la Méditerranée.
Merci Anthony. Dans un instant, le foot et les marabouts, ça fait évidemment causer. Si l'affaire Pogba était révélatrice d'un usage plus répandu qu'on ne l'imagine, eh bien on va recevoir un marabout dans quelques secondes. Il se fait appeler le professeur Dos Santos. A tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Quelles que soient les difficultés que tu as au niveau financier, au niveau de ta vie de couple, la vie de famille, ce message est pour toi.
Le message d'un marabout, puisque l'affaire Pogba a mis en lumière la pratique de maraboutage. Mathias Pogba accuse son frère Paul d'avoir demandé à un marabout de lui éviter des blessures, mais aussi de jeter un sort sur un homme, un coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce qu'un marabout ? Alors pour en parler avec nous, on est avec l'un d'eux, le professeur autoproclamé Dos Santos. Bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Alors, d'abord, de quoi on parle ? Au-delà des clichés, vous qui êtes concerné au premier chef, qu'est-ce que c'est le maraboutage ? Expliquez-nous.
Le maraboutage, c'est très simple. Avant tout, on est là pour aider les gens dans trois domaines : le travail, la famille et la protection. Donc avant de faire du mal ou quoi que ce soit, on est face à des gens qui sont en désarroi total et qui viennent nous voir pour régler ce problème-là. Souvent, ces gens ne veulent pas que les choses se sachent. Ils ne veulent pas en parler à leur famille, ils ne veulent pas en parler à leurs proches. Ils ont besoin d'en parler à une personne qui est complètement extérieure à l'univers. Est-ce que vous comprenez ?
Je comprends surtout que vous êtes peut-être en train de faire vos courses, monsieur le marabout, parce qu'il y a du bruit derrière vous. Je me demande si vous n'êtes pas dans... Vous êtes où en ce moment, en train de nous parler ?
Je suis chez moi, je suis dans mon balcon.
Ah bah dites-nous, il y a du bruit dans votre balcon. Bon, il y a du bruit. Mais est-ce que vous êtes efficace ? Parce que c'est ça qui est important. Par exemple, que moi je viens vous voir demain, je dis ma fiancée m'a quitté, je souhaiterais qu'elle revienne à la maison. Est-ce que vous la faites revenir ?
Tout dépend du problème, tout d'abord. La première chose qu'on regarde, c'est au niveau sentimental, s'il y a encore des sentiments l'un envers l'autre. S'il y a des sentiments à ce moment-là, on peut mettre en place un...
On va mettre en place une coupure, manifestement. Et ça sera une coupure, peut-être, que j'espère, qui ne sera pas définitive, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on a appris, avec cette affaire de marabout, c'est vrai que c'est une pratique assez répandue dans le milieu du football. Et peut-être va-t-on en parler.
Voilà, il y a un exemple très flagrant, plus connu, d'ailleurs, c'est celui du PSG, rappelez-vous, c'était en 97, c'était Michel Denisot qui était alors le président du club. Et il avait eu, lui, recours au service d'un marabout, alors que le club de la capitale avait perdu 3-0 son match aller contre le Steaua Bucarest. Michel Denisot, qui raconte régulièrement cet épisode.
Claude Leroy, donc, qui était dans le staff à l'époque, qui a beaucoup entraîné le Cameroun, l'équipe africaine, me dit « Ah, j'ai des coups de fil des marabouts, ils m'appellent et tout. » Je dis « Écoute, moi, je prends tout, camion de Serge à Lourdes, si vous voulez, marabout, je prends tout pour essayer de retourner la situation. » Et donc, je rentre en contact avec marabout qui s'appelle Sidi, qui a toujours des relations aujourd'hui. Et donc, je découvre Western Union, donc elle est payée à la poste pour envoyer de l'argent, etc. Et puis, deux jours avant le match, il me dit « C'est bon, vous allez gagner 5-0. » Et il ajoute « Je vois même très très bien le match. Il y aura le troisième but ou quatrième but à la 41e minute par le numéro 18.
Surface. Oups, c'est bien fait. Leonardo dans le trou. Boris. Et cinquième but. Et voilà le quatrième en première mi-temps, s'il vous plaît.
Et à l'arrivée, le PSG l'avait emporté 5-0. On est à nouveau avec vous, professeur Dos Santos.
Et on pose la question qui était la même. Est-ce que vous faites revenir cette fiancée à quelqu'un qui vous le demande ?
Déjà, premièrement, comme je suis en train de vous l'expliquer, chaque situation est distincte. Donc, la première étape, on va vérifier si les personnes séparées ont toujours des sentiments l'un envers l'autre. Mmh. Et à ce moment-là, on pourra faire un travail.
Mais c'est quoi le travail ?
Ça, c'est des secrets de fabrication. C'est à travers nos prières qu'on nous enseigne de père en fils.
Et on parlait du foot, là. C'est une pratique qui est très répandue dans le foot. Vous avez, vous, des footballeurs qui viennent vous consulter pour remporter des matchs ?
On a toutes sortes de sportifs. Les gens viennent nous consulter pour leur travail. Maintenant, le football, c'est un domaine où les gens sont exposés. Ils sont dans une situation où il y a énormément d'ennemis, énormément de courtisans, énormément de gens qui veulent les piéger. Comme vous pouvez le voir actuellement, avec beaucoup d'affaires.
Et combien vous prenez ?
Combien je prends ?
Eh oui, c'est une bonne question si je viens vous voir.
Et vous, et vous combien vous prenez, monsieur ? Venez me voir pour un vrai problème, donnez-moi le nom prénom de votre femme et je vous dirai combien je vous donne.
Pardonnez-moi, c'est une question qui est intéressante quand même. C'est 50 euros la consultation, 100 euros, 200 euros, si je vous demande.
Tout dépend du souci, monsieur. La consultation de base est à 100 euros, ça reste une consultation normale.
Bon. Alors, ensuite. Ce qui m'ennuie, alors, effectivement, là-dedans, c'est que si je viens pour une action positive, je trouve ça bien, mais si je viens pour une action négative, je dis non seulement je veux que ma fiancée revienne, mais je veux que le type avec qui elle est partie, vous lui jetiez un sort. Vous n'acceptez pas quand même ?
Surtout pas. Surtout pas. Jeter les sorts, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez ? Donc déjà, 95% des gens refusent de jeter les sorts.
Il en reste 5% quand même. C'est...
Il en reste 5%. Comme il reste 5% de mauvais journalistes, ou 5% de mauvais tricheurs, ou 5% de n'importe quel domaine que vous souhaitez. 90% des gens n'acceptent pas. Et 75% ne savent même pas jeter de sort. Maintenant, la partie...
Parce qu'il faut savoir jeter un sort.
Il faut savoir jeter un sort. Il faut savoir faire un retour. Et par rapport à ça, il faut qu'il y ait plein d'autres choses qui se passent pour qu'on puisse faire ça. Est-ce que vous comprenez ? Moi, personnellement, je ne jette pas de sort. Donc, ce n'est pas dans mon domaine.
Je vous félicite.
Mais je suis pas sûr, malgré tout, que vous ayez réussi à convaincre Pascal. Je suis pas sûr qu'il vienne vous consulter tout de suite.
Non, mais c'est vrai que je suis méfiant, comme tous les gens qui sont en train de nous écouter, forcément. Le surnaturel existe peut-être, mais je n'imagine pas forcément que dans des cas graves, cas de maladie, d'accident, des choses comme ça, un marabout puisse changer la vie des uns et des autres. Mais ce que je vous propose peut-être, c'est de rester avec nous pour les auditeurs tout à l'heure et vous pourrez peut-être échanger si vous n'avez rien à faire ces prochaines, si vous n'avez pas de consultation ces prochaines minutes.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Voilà. Le marabout, qu'on clarifie bien les choses. On est là pour développer le facteur chance des gens. D'accord ? Développer le facteur chance, c'est que tout le monde a un facteur chance qu'il faut juste développer.
Et c'est maintenant, peut-être tout simplement de la psychologie d'ailleurs. Mais là, je suis obligé de vous couper parce qu'on est déjà en retard. Mais restez avec nous, parce que je vous propose de revenir avec les auditeurs à 13h. Ça vous ennuie pas ?
Si j'ai de la disponibilité, il n'y a aucun souci.
Eh bien écoutez, on vous rappelle à 13h, puisqu'on poursuivra cette conversation. Dans une seconde, LVT, laissez-vous tenter, on va parler musique.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Et laissez-vous tenter, c'est désormais tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, déjeuner en musique avec vous, Steven Bellery. Bonjour.
Bonjour à tous.
On va balayer les nouveautés avec vous, Steven. Et on commence par le retour de Slimane.
Eh oui, 4 ans après Soloun, il revient avec un troisième album solo baptisé Chronique d'un Cupidon. Projet qui fait suite en fait à l'immense succès de Versus, album de duo avec Vita déjà écoulé à près d'1 million d'exemplaires. C'est complètement fou ce qui fait de Slimane le chanteur le plus populaire du moment.
De quoi tu dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà.
Dans cet album dont la recette c'est beaucoup, alors il y a à boire et à manger pour être honnête, des morceaux très produits qui cohabitent avec de belles balades qui
ça,
me plaisent
bien, ça,
davantage. Ouais, ça a été l'un des succès de l'été, hein. Ouais, bref, tube, hein. Slimane ayant l'une, faut le dire quand même, des plus belles voix de sa génération, ce disque est marqué en fait par sa récente paternité. Le chanteur de 32 ans est devenu papa en début d'année, une jolie nouvelle qu'il a dû confirmer de manière précipitée, la presse People l'ayant mis à la une. Confidence.
Pour être très franc, j'ai pas choisi de la partager, on m'a un peu mis sur le fait accompli, parce que c'est sorti sur plusieurs magazines. Dans ma tête, j'allais l'annoncer un jour ou l'autre, mais je voulais avoir le choix de quand, comment et pourquoi.
Ça vous a heurté ?
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on vole un moment d'intimité, ça heurte. Quand d'un seul coup, on vole quelque chose à ton enfant, qui a à peine un mois, qui est encore à l'hôpital parce qu'elle est à la néonate, ouais, t'es pas bien, quoi.
C'était une quête, ce besoin de devenir père ?
Non, c'était une évidence pour moi de devenir papa. Je voyais pas ma vie autrement qu'en étant père, en fait. Et d'ailleurs, maintenant que je le suis, je me rappelle même plus de comment j'étais avant. Ah oui, le mot amour, il est même pas assez fort. Quelque chose qui est indescriptible, c'est complètement fou.
Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime.
Des milliers de je t'aime, chanson dédiée à sa fille Esmeralda, retrouvée donc dans Chronique d'un Cupidon, c'est le nom du nouvel album de Slimane.
Et Steven, Kenji Girac revient également aujourd'hui avec une nouvelle chanson. Hasard, là aussi, c'est un hommage à sa fille.
Eh oui, c'est fou, hein, comme la paternité bouscule. Kenji prépare son retour. Hein, il publiera le 11 novembre son 5e disque. Il s'intitulera L'école de la vie. Kenji a bien grandi depuis sa victoire à The Voice en 2014. Il est devenu donc papa, lui, début 2021, d'une petite fille prénommée Eva. C'est le nom de sa toute nouvelle chanson, écrite et composée, surprise, par Juliette Armanet. Extrait.
Poserai mon bagage et où que je sois, j'aurai toujours ton âge. Que dès que je ferme les yeux, je vois ton visage, ton sourire, mon enfant. Et le plus beau des présents, t'as fait de moi.
On a l'impression qu'il y a un vrai retour également de la balade, Steven.
Ah, c'est une tendance ou un hasard? On ne sait pas vraiment, que ce soit Matt Pokora avec qui on est.
Hey, viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur, on l'évite.
Et d'une certaine manière, même Patrick Bruel avec Encore une fois.
Encore une fois. Encore plus fort.
Celle-là est plus mid-tempo. En tout cas, il y a cette tendance.
Moins slow quand même là.
Moins slow. Les artistes lèvent le pied un petit peu, je trouve, en cette rentrée. Les chansons sont ce qu'on appelle mid-tempo, voyez-vous, moins rythmées. Comme si le climat général anxiogène inspirait nos artistes à calmer le jeu. Ça fait du bien, moi, je trouve.
On termine par un coup de griffe. Vous n'avez pas été emballé par le 3e album de la chanteuse Pomme.
Artiste féminine de l'année aux Victoires en 2021. Pomme revient avec Consolation. Lui paru il y a une semaine, un disque tout en clair-obscur dans lequel elle se renouvelle guerre, féminisme, mort, nappe synthétique. Pomme ronronne et c'est bien dommage tant sa voix m'apaise et son écriture me touche. Voici Nelly. Sûrement, Nelly, c'est un hommage à l'écrivaine québécoise Nelly Arcan. L'album de Pomme est disponible. Moi, je suis un petit peu resté à côté.
Merci beaucoup, Steven, de m'avoir montré en selle quand même bientôt, j'espère. La culture, c'est donc aussi désormais tous les dimanches à 9h15. Toute l'équipe de Laissez-vous tenter réunie autour d'Anthony Martin. Et Steven, vous recevrez Matt Pokora. Hein.
D'ailleurs, dimanche, il a vendu 50 000 billets en 24 heures pour sa prochaine tournée. Voilà, c'est un artiste populaire.
Dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole au 3210, les auditeurs.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau.